J'aimerais parler sur comment résister au diable. Dans 1 Pierre chapitre 5 et au verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a une réalité spirituelle, c'est que dès que nous devenons chrétiens, nous avons un adversaire qui se dresse en face de nous et qui fait des plans pour nous détruire et pour nous nuire. C'est le diable. Le diable qui veut dire le calomniateur, donc ça veut dire qu'il profère des choses fausses à notre sujet, la calomnie. Et il s'appelle aussi Satan. Satan, c'est de l'hébreu, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose, celui qui met des bâtons dans les roues. Et calomniateur, donc le diable, ça vient du grec diabolos, celui qui dit des choses fausses. Voilà, notre ennemi, nous l'avons bien défini, Satan, le diable, et il agit contre les chrétiens. Alors nous devons réaliser que nous sommes dans ce combat, cette guerre spirituelle, que nous avons un adversaire qui est bien défini. Et la parole de Dieu nous dit de veiller chaque jour, de veiller sur nos pensées, sur nos voies, et d'être toujours prêt au combat. Le diable ici est comparé à un lion rugissant. Un lion, c'est puissant. Vous savez que la mâchoire d'un lion est tellement puissante qu'elle peut briser les os humains. Et il y a quelque chose donc, dans cette image qui nous montre que le lion, il dégage une certaine force. Il va même susciter la crainte. Et une autre version dit, il rôde et il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Mais en réalité, si vous êtes en Christ, si Jésus demeure en vous, vous n'avez pas à craindre les rugissements du diable, ni même le fait qu'il ouvre la gueule pour essayer de vous mordre. Notre part à nous, le texte dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors remarquez que c'est un ordre. Le Pierre ne dit pas « il faudrait que vous puissiez résister, ça serait bien que vous puissiez résister ». Non, résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire que nous devons lui résister, mais juste avec la foi. Et sans la foi, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut nourrir notre foi. Comment on fait pour avoir une foi forte? On la nourrit avec la parole de Dieu. Si votre foi n'est pas nourrie de la parole de Dieu, elle va être faible et vous ne pourrez pas résister au diable. Mais quand votre foi est nourrie de la parole de Dieu, elle se fortifie. Vous vous nourrissez l'esprit des promesses de Dieu. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, mais une foi forte, une foi en Christ, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et elle vous obéirait. Donc notre part, c'est de résister, mais comment? Avec une foi ferme. Que notre foi soit fortifiée par la parole de Dieu, et c'est notre part. Moi, j'aimerais vous laisser 6 conseils tirés de la parole de Dieu, 6 exhortations qui nous montrent comment on peut résister au diable. Le premier se trouve dans Éphésiens 6, verset 11. Ça, c'est le conseil de Paul. Revêtez toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On le retrouve, il a ses ruses, il agit, mais vous devez vous revêtir de ses armes spirituelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Remarquez combien les ennemis sont nombreux et ils sont déclinés sous toutes leurs formes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de fois Paul dit « prenez toutes les armes de Dieu d'après vous » Deux fois. Deux fois il nous dit dans ce petit texte « prenez toutes les armes de Dieu » au verset 11 et puis à la fin au verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu, encore une fois. Donc, il est important de le faire, pas simplement de le lire. Et si Paul revient deux fois dessus, c'est que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons nous arrêter et le saisir par l'esprit. Dieu savait très bien dans quel genre de combat nous allions nous trouver, et c'est pourquoi il a prévu une armure spirituelle. Et ces six armes sont là à notre disposition, mais nous ne devons pas les avoir à la maison où, j'allais dire, il y en a qui ont des armes en décoration, vous savez, un bouclier ou un sabre ou un fusil, etc. Ils accrochent ça. Mais nous, nos armes, elles doivent être fonctionnelles. Donc nous ne devons pas être négligents, insouciants. C'est un combat sérieux, c'est un combat spirituel, et ces armes, elles vont être utiles dans le combat. Encore faut-il s'en servir correctement. Parce qu'une arme, c'est destructeur, d'accord ? Une épée, avec une épée, vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez, si vous la maniez mal, vous pouvez même vous faire du mal à vous-même. Par exemple, Pierre, lorsqu'il a manié l'épée charnellement, il a coupé l'oreille d'un serviteur qui venait là pour arrêter Jésus. Il lui a coupé l'oreille, tranché l'oreille. Et Jésus lui a dit non, ce n'est pas de cette manière-là. Il a arrêté Pierre. Pierre qui voulait tout faire pour protéger Jésus. Non, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le maniement des armes charnelles. Il y a un autre combat. Ce combat, il est spirituel, il est puissant, il est dans le monde invisible. Aujourd'hui, les soldats sont formés pour le combat. Et ben nous devons nous former pour le combat. Et j'ai trouvé un exemple dans une illustration. C'est les commandos des paras qui s'entraînent. Alors j'ai regardé un petit peu comment ils s'entraînent. D'abord, ce sont des soldats qui font partie d'une unité spéciale destinée à combattre une fois qu'ils ont été parachutés. Et avant tout, ils doivent développer un état de solidarité, d'un genre fraternel entre les membres, d'une corporation différente dans une communauté. J'ai trouvé les termes intéressants parce que moi, ça me fait penser à l'Église. La solidarité, être fraternel, une communauté, vous voyez, tout ça, c'est des termes qu'on trouve dans l'Église. Et quelque part, on est aussi des soldats dans une fraternité, et on doit se soutenir les uns les autres dans le combat. Ça continue. Il se manifeste par la matérialisation d'une entraide et d'un soutien en toutes circonstances entre les membres de cette corporation. Là encore, si on fait le parallèle avec l'Église, ça veut dire un soutien dans la prière, ça veut dire un encouragement, ça veut dire de l'aide, de l'entraide, et puis d'une manière en toutes circonstances. Ensuite, un soldat, il doit constamment s'exercer pour être opérationnel. Moi, ça me fait penser à la prière. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas juste le dimanche ou le mardi, mais c'est constamment, chaque jour, être entraîné dans la prière. Pourquoi ? Parce qu'alors, on est opérationnel. Mais si je n'ai pas mon entraînement régulier, l'ennemi attaque, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas préparé, je ne suis pas entraîné, je ne suis pas exercé. Je n'ai pas mes armes, ça va être l'échec. Donc un soldat doit constamment s'exercer pour être opérationnel. Et puis, il refait toujours les mêmes exercices. Et pour nous chrétiens, les soldats du Christ, les mêmes exercices, c'est quoi ? C'est lire la parole de Dieu, mais tous les jours, on refait les mêmes exercices. On lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on prie. On lit la parole de Dieu, on la médite, on prie. Ce sont les exercices. Et nous devons les perpétuer tout le temps pour être des soldats efficaces. Alors ça, c'est le monde. Vous voyez, je vous ai donné les définitions qu'on trouve par rapport aux paras. Les commandos des paras, ils ont cette structure-là. Eh bien, dans l'Église, spirituellement, nous devons développer aussi la fraternité, la solidarité, l'exercice constant, la répétition des mêmes choses, mais dans un but spirituel de se préparer au combat. Donc on a vu combien c'est important d'avoir ces six armes, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'Évangile et l'épée de l'Esprit par laquelle nous allons combattre l'adversaire parce que c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de triompher. Ensuite, un deuxième conseil qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est dans Luc chapitre 22, verset 31, c'est prier. Prier, Luc 22, 31 à 32, c'est Jésus qui dit à Pierre, le Seigneur lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous, criblé comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis mes frères. » J'ai prié. J'ai prié dans le combat. Satan, lui, il réclame pour cribler. Cribler, ça veut dire secouer. Et peut-être que vous êtes secoué ou que vous avez été secoué violemment. Secoué par le crible du diable. Ça, c'est les images des épreuves par lesquelles nous passons, que nous subissons, qui sont terribles. Parfois, nous sommes violemment secoués. Mais Jésus a prié pour que notre foi, la foi ici des disciples, ne défaille point. Il nous faut rester dans la foi, même si ça secoue. Le diable, en fait, s'il arrive à faire lâcher au niveau de la foi, la personne, elle va couler. Mais si vous conservez la foi, c'est pourquoi que Jésus prie pour que la foi de Pierre ne chancelle pas, parce que si cette foi chancelle, il va couler, mais elle est maintenue à la surface. Eh bien, nous devons prier pour que notre foi soit gardée dans ces moments de secousse. Et Jésus annonce que la prière ici va être puissante et efficace dans les temps où on est criblé par le diable. Elle va protéger Pierre dans l'épreuve. Oui, il va chuter. Oui, Pierre va même renier Jésus, mais il va être gardé et il va revenir là où il était avant. Et si Pierre avait perdu la foi, ben, il aurait tout perdu. Mais comme il a conservé la foi, ben, il est revenu vers le Seigneur. Eh bien, nous devons conserver la foi et l'entretenir. En fait, c'est la foi qui nous relie à Dieu. Si nous perdons la foi, ben, nous coulons. C'est la parole qui dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont eu la foi, ils l'ont perdue, ils ont coulé. Donc, si vous perdez la foi, ben, c'est comme si il n'y a plus de relation avec Dieu et on coule, on perd la foi, on s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de fortifier, nourrir, entretenir la foi. La prière donnera de la résistance face aux attaques incessantes de l'ennemi, la résistance. On n'est pas très résistant, mais par la prière, on va être résistant, on va se fortifier dans la foi. Il y a toujours les mensonges du diable, mais si nous prions, c'est lui qui fuira, c'est lui qui sera vaincu, qui sera tenu en échec. La prière est aussi efficace pour faire tomber les chaînes de Satan. Lorsque Jésus se retrouve dans la synagogue, il y a là une femme courbée depuis 18 ans qui ne pouvait plus se redresser. Médicalement, ce n'était pas possible. Mais Jésus discerne que cette maladie n'était pas d'origine physique, mais spirituelle. Il voit qu'il y avait une chaîne, que Satan la tenait liée depuis 18 ans. Et il va lui prier pour elle. Donc c'est la prière de la foi. Il impose les mains et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le chef de la synagogue surgit, il ne faut pas faire de guérison le jour du sabbat. Mais Jésus le reprend et lui dit « Mais vous, hypocrite, vous êtes capable de sauver un animal qui est tombé dans un trou le jour du sabbat et vous ne voudriez pas qu'une personne soit guérie le jour du sabbat ?» C'était incohérent. Luc chapitre 13, verset 16. Jésus dit « Et cette femme, il vient de prier pour elle, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» En fait, ici, c'est la prière d'autorité, la prière qui délie une personne qui est liée. Cette femme était donc liée par Satan, alors elle pouvait aller voir les médecins. Elle pouvait prendre des médicaments, des traitements. Elle ne pouvait pas se redresser. C'était spirituel. Mais la prière d'autorité délie des situations bloquées, des situations impossibles, humainement à enlever par des traitements, psychiatrie, médicaments. Il n'y a pas de solution humaine. Il faut la prière de la foi, la prière d'autorité. Elle pouvait être délivrée de cette chaîne, mais elle venait à la synagogue et personne ne pouvait la délivrer parce que personne n'a discerné et personne n'avait la prière d'autorité. Jésus, lui, il a vu, donc discernement spirituel, il a prié avec autorité, la prière de la foi est puissante, et cette femme a été totalement libérée. Tout cela, ce sont pour nous des modèles que la situation peut être déliée, débloquée par la prière d'autorité. La prière, c'est un petit peu comme un combat, Paul dit dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Que dit ce texte? Eh bien, il nous révèle que quand on prie, on est dans le combat. On est dans le combat spirituel. Il combat dans les prières. Tout à l'heure, on va prier pour des sujets, on va s'attendre à la main de Dieu, mais on est en train de combattre. Et on ne cesse de combattre dans nos prières pour renverser des forteresses, pour anéantir l'opposition, pour rejeter l'incrédulité, pour permettre que l'œuvre de Dieu s'étende. C'est un combat. Donc, voyez le modèle Épaphras. Il combattait, mais il n'arrêtait pas de combattre. Et il revenait à la prière en combattant, tout le temps. La prière, c'est donc un combat. Ça, c'était le deuxième conseil, c'est prier. Mais la prière d'autorité, la prière de combat, contre l'adversaire toujours. Un troisième conseil, c'est dans Éphésiens 4, 26. Ne lui donnez pas d'accès. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas d'accès dans votre cœur. Parce que quand une personne se met en colère, c'est déjà une porte ouverte où le diable va s'infiltrer. Lui, dès qu'il voit une colère, il arrive pour mettre le feu, que cette colère débouche en violence. Et que ce qui nous passe par la main, comme un projectile. Et après, on ne réfléchit plus, parce que la colère nous anime, mais le diable a trouvé un accès et il utilise cette violence pour détruire. Et il espère que le chrétien va tomber dans ce piège. Donc la colère alimente, et la violence. Perte de contrôle. Mais qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche un accès. Eh bien, la colère, c'est un accès par lequel il va pouvoir arriver à ses fins, c'est-à-dire la violence, faire du mal, détruire, nuire aux autres, ou alors dire des paroles méchantes, mauvaises. On contrôle plus ses paroles. On dit des grossièretés, des injures, des insultes qui sortent de notre bouche. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu un accès, et alors là, c'est parti. C'est pourquoi il cherchera toujours un accès. Mais le texte dit « ne donnez pas accès au diable ». Donc c'est à nous de veiller sur notre cœur, de demander pardon au Seigneur. Si nous nous mettons en colère, il dit, que le soleil ne se couche pas, mais demandez plutôt pardon au Seigneur, afin que l'ennemi n'ait pas un accès pour vous pousser à la violence, à la haine et à des paroles mauvaises. Paul indique ici la solution, il dit, ne restez pas dans votre colère, demandez pardon, repentez-vous et réconciliez-vous. Ne vous couchez pas avec cette colère. Si nous laissons cette colère, à l'inverse, quelqu'un qui dit moi, la colère, il se met en colère, il veut pas il va la laisser s'enflammer, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas demander pardon. Ben en fait, il est en train de donner un accès au diable, tout simplement. Il est en train de donner un accès au diable. C'est ce que dit ce texte. Et il suffit de donner un seul accès et c'est bon. Un seul accès et il fait tout son travail de destruction. Donc, il n'est pas dit que le diable, lui, il va s'imposer de lui-même. Il est dit, ne lui donnez pas d'accès pour qu'il puisse vous utiliser, vous manipuler. Mais lui, il ne peut rien faire contre un chrétien. Le diable, il est limité dans son action. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous aimons Dieu, il y a comme une protection, une forteresse. Donc, l'accès, c'est bien nous qui lui donnons à un moment donné, par notre égarement, par nos fautes, par notre manque de repentance, par notre orgueil, on donne un accès. Et le diable, il attend. En fait, il attend, quand il dit « il rôde comme le lion rugissant », il attend l'accès. Et quand il est à l'accès, il fonce. Mais dans Jacques chapitre 4, verset 7, voilà comment nous bloquons tous les accès, nous les maintenons bien fermés. C'est la clé, en fait, du début du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. On pourrait dire, on ferme tous les accès, il n'y a pas d'accès. Soumettez-vous donc à Dieu, alors résistez au diable et il fuira l'un de vous. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès parce qu'on s'est soumis à Dieu, on a demandé pardon pour ses péchés, on a rejeté cette colère, on a demandé pardon pour les paroles mauvaises, pour les pensées mauvaises. Il n'y a plus d'accès. Mais ça commence par la soumission à la volonté de Dieu, et sans cette obéissance parfaite à la volonté de Dieu, les accès, ils sont nombreux. Sans l'obéissance, vous n'aurez pas l'autorité, vous ne pourrez pas résister au diable, et il ne fuira pas loin de vous. Donc, soumettez-vous à Dieu, c'est vraiment, on va dire, le surmoyen de bloquer tous les accès possibles à l'adversaire. Et là, il ne pourra rien faire contre nous. Quatrième conseil dans la parole de Dieu, comment résister au diable? En proclamant la parole de Dieu dans Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et notez bien que la parole, il l'a dit à haute voix. Et ça, c'est très important quand le tentateur, il vient pour vous proposer des choses mauvaises. Dites à haute voix un verset. Parce que le diable, ça l'irrite. Il ne supporte pas la parole de Dieu. Il n'aime pas un verset qui est dit dans la foi, dans l'autorité. Vous voyez, c'est l'épée, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée. Il ne supporte pas. Et si le diable a tenté Jésus, n'imaginez pas qu'il va vous faire grâce. Le diable ne fait pas grâce. Il a essayé avec Jésus. Alors, sachant que Jésus, c'est le Fils de Dieu parfait sans péché, c'était pas possible que Jésus tombe facilement comme ça. Non, Jésus était toujours rempli de la parole de Dieu. Mais il essaye quand même. Alors, avec nous, il ne va pas se priver d'essayer. Il va tenter. Il va s'approcher. Peut-être vous flatter si tu es le Fils de Dieu. Et il utilise la flatterie pour tomber dans l'orgueil. C'est pour mieux pousser à la faute. Et Jésus nous laisse le modèle. Le seul modèle qui est valable, c'est pour contrer ces paroles fallacieuses, c'est sortir un verset de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez des versets par cœur. Parce que quand vous connaissez des versets par cœur, ils sont dans votre cœur et vous pouvez les utiliser au moment précis où vous avez besoin. C'est l'arme du chrétien, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en fait, c'est la... Vous ne pouvez pas discuter avec le tentateur. Surtout pas. Surtout pas discuter. Ève, elle a discuté avec le tentateur. Genèse 3. Et en discutant avec le tentateur, finalement, elle se dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alors il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ah oui, c'est vrai, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et puis elle vit que l'arbre était bon. Et en fait, en discutant avec le tentateur, elle a changé sa vision, elle ne voyait plus le mal pareil, et elle a cédé au péché. Ne discutez pas avec l'adversaire, mais au contraire, proclamez une bonne parole de Dieu, un verset là qui vient, qui va être comme une épée puissante pour le faire fuir. Ensuite, le cinquième conseil, c'est le chasser. On peut chasser le diable avec autorité. Regardez ce que fait Jésus dans Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, il parle à Satan, « Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, encore la parole, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Que fait le diable? Alors, il le laissa. Voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Retire-toi, Satan. Donc Jésus a ordonné au diable de partir. Et à un moment donné, il faut prendre autorité. Bien sûr, c'est dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus que nous prenons autorité, parce que le diable ne nous craint pas. Ce qu'il craint, c'est Christ en nous. La Bible dit « Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire ». C'est ça que le diable... En fait, quand le diable vous voit, il voit Christ. Et s'il voit Christ, il va se retirer. Parce qu'il est soumis au nom de Jésus. Il sait qu'il a été vaincu au nom de Jésus. Si vous proclamez le nom de Jésus, mais surtout, si vous êtes en Christ, parce que proclamer le nom de Jésus si vous n'êtes pas en Christ, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes en Christ et que vous proclamez le nom de Jésus, vous pouvez ordonner à l'ennemi de reculer. Retire-toi, Satan. Jésus a chassé le diable et les démons. Et si vous regardez à la fin de l'évangile, donc il a passé son ministère à enseigner les disciples, et vous regardez à la fin de l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. » Donc chasser le diable, chasser les démons, mais en mon nom, si Christ n'est pas le centre de votre vie, si le nom de Christ n'est pas dans votre cœur, la réalité spirituelle de Christ n'est pas là, vous ne pourrez pas chasser. Vous ne pourrez pas dire « Retire-toi, Satan ». Vous pourrez le dire si vous voulez, mais ça n'aura pas d'impact spirituel. L'impact spirituel, il est dans le fait d'être en Christ. Le nom de Christ réside en nous et nous prenons autorité spirituelle. En réalité, l'autorité que nous avons, elle nous vient de Dieu. Si Christ n'est pas en nous, nous n'avons pas d'autorité. Donc, comment vous pouvez chasser un démon? C'est par l'autorité du Seigneur en vous. Si vous proclamez le nom de Jésus, si Christ est en vous, alors, lui, il fuira. Et il se retirera de Jésus comme les démons seront chassés. Le Seigneur, donc, nous a donné le pouvoir d'agir en son nom. Et nous, notre part, c'est de vivre en conformité avec la parole de Dieu, avoir Christ dans notre cœur. Et c'est ça que le diable craint le plus. Ce sont des chrétiens qui sont en Christ et remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la défaite assurée. Pour l'adversaire, c'est sûr qu'il fuira loin de nous, mais c'est à nous de faire notre part et de nous tenir en Christ. Et le dernier conseil que je voulais vous laisser, c'est dans 3 Jean chapitre 3 verset 4, non plutôt 3 Jean verset 3 et 4, c'est marcher dans la vérité. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La vérité, ça revient 3 fois dans ce passage. Être dans la vérité, marcher dans la vérité. Eh bien, le diable, c'est le père du mensonge. Si vous êtes en Christ, vous marchez dans la vérité, vous avez une autorité, vous avez la victoire sur l'adversaire. Mais si vous marchez dans le compromis, si vous marchez dans le mensonge, si vous mentez à votre conjoint, par exemple, si vous trompez un client au travail, si vous mentez dans votre assurance, vous faites une fausse déclaration, vous ne marchez plus dans la vérité, ben vous perdez en fait votre assurance et c'est l'ennemi qui va dominer. L'ennemi ne vous conduira pas dans les verts pâturages. Si l'Éternel est votre berger, le texte dit « il me conduit dans les verts pâturages ». Mais si vous ne vivez pas dans la vérité, vous ne marchez pas dans la vérité, l'adversaire, il vous conduira dans ses pâturages à lui. Et ce n'est pas des bons pâturages, c'est les pâturages de l'adversaire qui seront des mauvais projets, une mauvaise vie, des mauvaises affaires, des situations compliquées qui ne vous sortira pas. En conclusion, la Bible, donc, elle est pleine de bons conseils, il faut les méditer, il faut lire la parole de Dieu et s'en nourrir. Et ce sont des conseils utiles pour résister au diable. Nous réalisons que le combat, il est là. Alors n'imaginez pas que le combat va s'arrêter ou que le combat va diminuer. Et ce que j'explique toujours aux chrétiens, c'est que non seulement le combat ne va pas diminuer, mais il va s'intensifier, mais en parallèle, en fait, vous allez développer une force spirituelle qui sera toujours plus forte que le combat qui va s'intensifier. Si bien que vous allez toujours supporter le combat parce que vous allez toujours avoir un temps d'avance. Si on le fait sérieusement, en fait, le combat ne sera pas plus dur, il ne sera pas plus violent parce qu'on s'est fortifié davantage. Et quand bien même le combat augmente, eh bien, on est encore plus fort pour résister, pour lutter. Alors tout cela, ça nécessite de mettre en pratique les 6 conseils de la parole de Dieu. Se revêtir de toutes les armes. 1. 2. De prier tous les jours. 3. De ne jamais laisser d'accès au diable par la colère et la violence. 4. De proclamer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, on l'a apprise par cœur, on l'a dans notre cœur, on a des versets dans notre cœur. 5. De chasser le diable avec autorité. 6. De marcher dans la vérité. Ça, c'est notre part, c'est ce que nous devons appliquer. Et la main de Dieu va être avec nous. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole qui nous montre, Seigneur, le chemin de la victoire, le chemin du succès contre l'adversaire et ses plans, comme nous l'avons lu, alors qu'il a ses ruses, alors qu'il a ses plans, alors qu'il est en train de cribler pour nous faire déchoir quant à la foi. Eh bien, nous voulons ce soir nous fortifier dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Nous voulons, Seigneur, bloquer tout accès en nous soumettant à ta sainte volonté, afin que l'adversaire ne fasse que fuir et que reculer alors qu'il vient pour tenter, alors qu'il vient pour déchirer, alors qu'il vient pour frapper les familles, alors qu'il vient pour envoyer des liens, pour envoyer des malédictions. Eh bien, nous prions pour que nous soyons gardés de toutes ces choses par le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous voulons réaliser que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voulons nous nourrir l'esprit, que ta parole est la vérité, que nous avons une autorité spirituelle qui vient d'en haut, qui vient de Dieu et qui nous donne de vaincre l'adversaire, non pas par notre voix ou notre force ou notre titre, mais par l'autorité spirituelle qui vient d'en haut. Merci de nous qualifier ce soir. Merci de nous revêtir encore tout à nouveau de ton onction et de nous accorder encore la victoire dans le nom de Jésus. Amen.